j'ai vu passer une petite théorie, un poil parano. Depuis le début de l'année, vous aurez peut-être remarqué qu'il y a une fuite de données par semaine quasiment. Eh ben, il est bien possible que ce soit directement lié au progrès fulgurant des IA qui écrivent du code. Ça a démultiplié la surface et la puissance de frappe des attaquants. Jusqu'à ce que Anthropic invoque cet argument pour ralentir la sortie de son nouveau modèle Mythos. Apparemment trop puissant pour que nous pauvres mortels puissions y toucher. Ça ressemble quand même à un moyen de surfer sur la peur et faire du marketing, alors j'ai voulu en avoir le cœur net. Et j'ai invité Sylvestre. Il travaille chez Mozilla et il fait partie des rares élus à qui Anthropic a accordé un accès anticipé au modèle pour sécuriser un logiciel absolument crucial puisque c'est votre navigateur. L'idée, c'était d'utiliser Mythos pour blinder le code avant que des attaquants ne puissent utiliser le même outil pour le torpiller. Alors, est-ce que c'est réellement un modèle terrifiant ou un pétard mouillé? Il va pouvoir quasiment tout nous raconter et vous allez voir que il y a quand même de quoi commencer à être inquiet. Mais juste avant, on va parler une petite minute de notre partenaire parce que ça tombe vraiment bien avec le sujet du jour. Mammoth AI, qui sponsorise cette vidéo, est une plateforme qui vous donne accès aux meilleurs modèles d'IA du marché. Claude, GPT, Gemini, DeepSeek, Mistral, mais aussi les générateurs d'images et de vidéos comme Nano, Banana, etc. Et petit bonus pour les devs, vous connaissez peut-être OpenCode, le projet open source qui permet de coder dans le terminal avec n'importe quel modèle d'IA. Et bah Mammoth s'y branche avec une seule clé API. Une clé, un abonnement, une facture, et t'as accès à tous les modèles directs dans ton terminal. Côté données, tout est hébergé en Europe et conforme RGPD. Et tout ça à partir de 10€ par mois en abonnement annuel. Donc, assez imbattable. Je vous mets ça en description avec une vidéo que j'ai fait avec le cofondateur pour découvrir la boîte. Et on reprend. Ce qui est intéressant avec ta perspective, c'est que, bah, globalement, vous êtes pas n'importe qui, quoi. Mozilla, c'est pas, voilà, n'importe quelle entreprise qui essaye le nouveau modèle à la mode. Et donc, pourquoi c'est aussi critique, plus dans votre boîte que dans bien d'autres, de trouver des vulnérabilités et de corriger des failles? Parce que c'est quelque chose que voilà, les gens ne réalisent pas forcément, c'est à quel point beaucoup de gens s'intéressent au navigateur.
Oui. Alors, le navigateur, c'est vraiment la porte d'entrée sur l'ordinateur. Beaucoup d'entre nous, à part peut-être les plus geeks d'entre nous, le premier truc qu'on fait quand on utilise un ordinateur, c'est on démarre le système d'exploitation, on lance un navigateur. Maintenant, toutes les applications sont disponibles dans le web. Donc tout le monde utilise le web en permanence, tout le monde a des navigateurs sur la machine et c'est des logiciels d'une complexité infinie.
Et qui est intéressé pour trouver des vulnérabilités dans des navigateurs en gros?
T'as les plus connus, t'as les groupes mafieux, t'as les services de sécurité, alliés ou ennemis. Donc tout le monde cherche des failles de sécurité dans les navigateurs parce qu'il y a une probabilité certaine que tout le monde a un navigateur sur son téléphone ou sur son ordinateur.
Et si on fait un petit historique justement? Est-ce que tu as un peu des faits marquants?
Oui, je peux parler d'une faille qui est à la fois ancienne et d'actualité. C'était une faille qui nous avait été rapportée par des chercheurs en vulnérabilité. C'était une faille qui, si vous alliez sur un site de news en Russie, la faille allait récupérer tous vos fichiers de mots de passe en local sur votre machine et l'envoyer sur un serveur en Ukraine. C'était pendant la Crimée, en 2014 ou 2016. Et donc, c'est ce genre de failles qu'on voit qui peuvent être utilisées pour exfiltrer des informations ou des fois pour prendre le contrôle de la machine à distance. Ça nécessite un niveau d'expertise assez élevé, mais ça se fait.
De base, vous êtes juste, entre guillemets, des développeurs normaux, a priori, qui travaillent sur des sujets bas niveau. Mais vous vous retrouvez, en fait, au milieu de sujets hyper géopolitiques, en fait, tout hyper tendus, ouais. Où il y a des gens qui ont des milliards de budget qui essayent de péter ton code, quoi, si on simplifie le truc. Et la raison pour laquelle c'est aussi intéressant, je pense, c'est que le Graal pour l'attaquant, c'est tout ce qui est zéro clic ou peut-être one click dans le cas d'un navigateur. C'est-à-dire que, en gros, t'envoies un lien par message à quelqu'un et juste t'as besoin qu'il consulte quelque chose pour être infecté, quoi.
C'est très intéressant pour ça parce qu'on se méfie pas d'un lien. Donc, je prenais l'exemple d'un site web en Russie. Il suffisait d'aller voir le site en .ru et vos mots de passe étaient exfiltrés sur un autre serveur. Je dis pas que c'était les Ukrainiens, ça peut être très bien une opération, comme on dit, false flag, je sais plus comment on dit en français, mais une opération sous drapeau caché, donc ça peut être très bien un autre service qui a fait ça.
Et justement, c'est ce qui visiblement est en train d'être chamboulé en ce moment.
Complètement. Hein.
Ou en tout cas, c'est ce qu'on entend, que Anthropic, en 2026, aurait changé les règles de ce statu quo, on va dire, où il y a d'un côté des gens qui cherchent des failles pour des millions, de l'autre, vous qui vous défendez. Est-ce que déjà, tu peux nous expliquer pourquoi c'est si difficile de sécuriser à 100% un navigateur?
Alors, navigateur, c'est, j'aime bien dire que c'est plus compliqué qu'un système d'exploitation, parce que quand on prend du recul, un navigateur, on affiche en temps réel des vidéos de la 3D à 60 FPS de manière sécurisée. Ce que j'entends par sécurisé, c'est quand tu vas sur un site web, tu vas télécharger du HTML, du CSS, du JavaScript, maintenant du WebAssembly, et tu vas lire des fichiers vidéo, des fichiers audio, avec des protocoles réseau sur des serveurs distincts. Donc la matrice de tout ça, elle est infinie. Donc tester tout ça est très compliqué et tout ça c'est fait avec Firefox et 33 ou 34 millions de lignes de code. Donc il y a un aspect historique, c'est que déjà on a écrit tout en C++, qui sont des langages notoirement peu sécurisés. Donc les chiffres montrent qu'à peu près chez tout le monde, hein, c'est pas spécifique à Mozilla, mais entre 50 et 60% des failles de sécurité sont liées à la gestion mémoire. Donc le reste c'est des erreurs de logique ou des choses comme ça, mais c'est quand même plus de la moitié des failles de sécu sont liées à ça, et que le logiciel il bouge en permanence, c'est-à-dire qu'on a des centaines de changements par jour, qu'évidemment on introduit des nouvelles régressions à la fois fonctionnelles et à la fois de sécurité, parce que ce qu'on fait est très compliqué. À Mozilla on a la chance d'avoir des ingénieurs de classe mondiale, mais on a quand même plein de failles de sécu. Nos concurrents c'est pareil, Safari et Google c'est la même chose.
Donc c'est que t'as une surface qui est énorme en gros, parce que t'as plein de fonctionnalités tout le temps, et le public attend ça aussi d'une certaine manière, j'imagine. Donc on a besoin de s'intégrer avec, je sais pas, des services de meeting, du coup ça demande des fonctionnalités...
Exactement, WebRTC, c'est ça.
Voilà, WebRTC, donc ça, en fait tu rajoutes à chaque fois des très grandes zones attaquables, et après ce que t'expliques c'est que sur la sécurisation, en fait c'est pas si anodin de pouvoir charger du code arbitraire qui vient de l'extérieur.
Et ça, on l'oublie, ça, en fait. Ouais. Hein. Pour nous, c'est naturel, parce qu'on a toujours grandi avec des navigateurs web, mais en fait, tu passes ton temps à lire du code untrusted, de pas de confiance. Et c'est ça qui est fascinant dans un navigateur, c'est que tu passes ton temps à lire du code écrit par des tiers en enquête, tu dois pas avoir confiance.
Et il peut y avoir des trucs malveillants dedans, et il faut que tout se passe bien.
Ouais. Et même au-delà de ça, tu peux avoir du code écrit avec les pieds. Hein. Si moi j'écris du HTML ou du CSS, généralement ça va être assez moche et assez pourri, et tu vas quand même avoir le navigateur qui va rendre quelque chose.
Ça c'est beau. Est-ce que justement, pour qu'on comprenne un peu ce qui s'est passé, peut-être en 2026, tu peux nous expliquer comment se passe la manière de sécuriser et de gérer les différentes vulnérabilités chez Firefox avant 2026, tu vois. Quelle était la manière de procéder?
Donc, ce qu'on faisait avant, c'est que dans le passé, on utilise des outils comme l'analyse statique, se trouver quelques types de failles de sécu. Donc, c'est des outils qui vont lire le code et qui vont dire, ah, il y a peut-être une faille ici, quelque part, ou là, il faudrait que tu corriges ce bug-là.
C'est quoi? C'est des automatismes qui...
C'est des extensions, des compilateurs qui vont dire, ah, Michael, il a fait une erreur de programmation ici, il a oublié de libérer la mémoire à la fin, ou il l'a libéré deux fois, il aurait pas dû, etc. Donc, ça t'aide. Mais c'est limité aux fichiers, des fois à quelques autres fichiers, mais c'était pas terrible. Pour faire un peu d'historique, en 95-96, vous étiez peut-être pas né, je pense, ou pas loin, et t'as Netscape à l'époque, et la première grosse boîte de l'industrie avait créé un programme qui s'appelait les Bounty Program. Si tu trouvais une faille de sécu dans Netscape, on va te filer $100 ou $200, etc. Donc là, ça a encouragé beaucoup de chercheurs et de hackers éthiques à envoyer des failles de sécurité, des vulnérabilités. Donc c'est déjà, quelque chose qui est omniprésent dans l'industrie maintenant.
Ça, c'est super révolutionnaire déjà. Ça veut dire, bon, la vulnérabilité, vous n'avez plus le choix maintenant entre être gentil et la donner, ou alors la revendre pour très cher sur le marché noir.
Tout à fait.
Il y a une troisième voie, qui est qu'on va vous remercier et vous rémunérer pour avoir trouvé une faille.
C'est ça.
Et ça, c'est devenu complètement standard. C'est-à-dire que toutes les grandes entreprises ont leur bug bounty. Il y a même des gens dont c'est devenu la profession. Et donc, c'est un truc qui s'est vachement développé. Mettre tout le monde à contribution pour trouver des failles, quoi.
Tout à fait. T'as une autre technique pour détecter les failles de sécurité qui est relativement technique, qui s'appelle le fuzzing. Le fuzzing, c'est un concept qui, en anglais, on appelle ça une silver bullet, une balle d'argent, qui est une solution assez miraculeuse pour trouver des failles de sécurité. Le principe du fuzzing, c'est que tu envoies des données correctement formatées ou incorrectement formatées à ton logiciel, soit au logiciel dans son intégralité, soit aux fonctions du programme. Donc, au lieu de compiler Firefox en intégralité, tu vas juste compiler, par exemple, le moteur JavaScript. Et là, tu vas lui envoyer du JavaScript correct ou incorrect. Et avec ça, tu trouves des centaines de failles de sécu par an avec ça.
Le concept est complètement contre-intuitif.
Hein. Ah oui, complètement, ouais.
Voire hilarant. Parce que si on résume, c'est-à-dire que c'est comme si vous avez construit une machine. Et après, il y a quelque chose dont le but va être d'envoyer des trucs dessus, quoi.
C'est ça.
Tu lui jettes des choses.
Des petits cailloux.
T'appuies de manière totalement random sur tous les boutons. Tu fais n'importe quoi de manière aléatoire pendant longtemps. Et à un moment, tu peux réaliser que ta machine, elle se comporte bizarrement, quoi.
C'est ça.
Et regarder la machine de l'intérieur ne t'aurait pas aidé à trouver ce problème-là. Et c'est vraiment le concept du fuzzing.
Tout
alors,
à fait.
Du coup, c'est pas un humain qui le fait, c'est de manière automatisée. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2026?
Alors, nous, on intuitait que les LLM allaient être pertinents pour la détection de vulnérabilités. C'est-à-dire, quand ChatGPT 3.5 et le 4 sont sortis, on s'est dit, ah, il y a quand même quelque chose là, sur des modèles d'attaque. Donc, ce qu'on faisait, c'était des techniques un peu stupides où tu prends du code et tu sais qu'il y a potentiellement des failles de sécu. Et tu le mets dans un ChatGPT et tu lui dis, cherche une faille de sécu. Et en fait, on s'est aperçu, alors là, il y avait beaucoup besoin de lui prendre la main, de l'aider, de l'accompagner, mais qu'il arrivait à trouver des failles de sécu. Et là, on s'est dit, ah ouais, il y a quand même quelque chose là-dessus dans l'industrie qui va changer à terme. Et donc là, après, Anthropic nous a contactés en disant, on a un nouveau modèle,
on a un truc.
On a trouvé quelques failles de sécu dans votre navigateur en disant les LLM. Et donc là, on a vu ça, on a fait, ah ouais, quand même.
Et elle ressemble à quoi, celle qui vous envoie, c'est des trucs? Parce que c'est ça qui va être aussi intéressant à réaliser, c'est, on va parler de nombre, de quantité de vulnérabilités, mais il y a un truc qui est hyper important, même plus que tout le reste, c'est la criticité.
C'est ça, la sévérité, ouais.
Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer justement qu'est-ce que ça veut dire, en fait, la sévérité d'une vulnérabilité, et à quoi elle ressemblait là?
Alors, on a quatre types de sévérité à Mozilla. On a faible, low, modéré, moderate, high pour élevé et critique pour critical. Et donc, là, grosso modo, la sévérité critique, c'est les 0D. Les 0D, c'est les failles de sécurité qui sont exploitées par des attaquants dont on n'a pas connaissance et on n'a que 0D, 0 jour pour la corriger.
Et j'imagine qu'il y a faille et faille, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont permettre que l'affichage de tel truc soit pas exactement comme d'habitude. Non, globalement, c'est pas très grave, quoi. Et j'imagine qu'il y a des failles qui permettent des trucs de fou.
C'est ça. Les navigateurs ont été historiquement sécurisés de plus en plus. Donc maintenant, on a ce qu'on appelle du sandboxing, des bacs à sable. C'est-à-dire que si jamais un attaquant trouve une faille de sécurité dans le navigateur, il peut quand même pas parler directement au système d'exploitation. Parce que ça, c'est le Graal quand tu fais une attaque. C'est que tu casses le navigateur, t'arrives à sortir du navigateur, t'arrives à trouver une faille dans Windows et tu prends le contrôle de la machine. Et donc, le sandboxing, le bac à sable qu'on a mis en place empêche ce genre d'attaque.
Si par exemple, il n'y a pas de vulnérabilité dans la machine qui fait le sandboxing.
C'est ça. Donc, dans le bac à sable, si tu trouves une vulnérabilité qui sort du bac à sable, automatiquement, c'est ce qu'on appelle SEC High, classification élevée de sécu.
Panique.
Dans ce cas-là, on le coupe. Panique, oui, non, parce que ça dépend si c'est nous qui la trouvons ou si c'est exploité déjà.
Donc là, vous recevez ces premières failles. Quelle est l'ambiance de manière générale? Est-ce que vous êtes plutôt sceptique au début? On sait que les gros labos d'IA, ils aiment bien faire des grosses annonces. C'est un peu une course aussi à la surenchère sur qui va annoncer les trucs les plus absurdes. Pour justifier aussi des valorisations très élevées, n'est-ce pas? Et donc là, est-ce que votre attitude, vous, c'est peut-être d'être un peu sceptique au début ou pas?
Non. Dès le début, les ingés de Anthropic nous envoient des failles de sécu de haute qualité. Donc on voit rapidement qu'ils ont découvert une nouvelle mine d'or de vulnérabilité. Donc on travaille directement avec eux et on assigne des ingénieurs dessus pour évaluer les failles de sécu, voir comment est-ce qu'on le fait. Et rapidement, Anthropic nous dit « Bon, on voulait pas accéder au modèle. » Et donc, il nous donne les clés du modèle pour nous-mêmes commencer à tester là-dessus.
Ok. Toi, étape 1, j'imagine que la manière dont tu le découvres, c'est que dans les outils d'orchestration que tout le monde utilise, donc que tous les développeurs utilisent, donc ouais. Cloud Code, par exemple, ouais. Ou autre, tu as un nouveau modèle qui apparaît qui s'appelle Mythos. Juste si on part de là, c'est quoi, toi, tes premières impressions? Est-ce que tu fais des tests aussi à la main? Est-ce que ça a du sens de l'utiliser comme ça ou pas du tout, tu vois? Lui dire, tiens, cherche des vulnérabilités.
Non, en fait, on lui a donné directement des modèles d'attaque qu'on connaissait en lui disant, cherche ce fichier-là, voilà ce qu'on cherche. Et on lui dit, voilà aussi le verifier, la vérification, la récompense à la fin. On lui dit, voilà comment est-ce que tu arrives à vérifier que c'est effectivement une faille de sécurité. Donc, on met en place les outils pour le faire et on s'aperçoit que rapidement, il en trouve beaucoup. Ce qu'Anthropic nous avait transféré initialement, nous-mêmes, on est capable de répliquer et de lancer ça sur l'échelle du navigateur. Et on écrit 7 ou 8 différentes prompts ou manières d'attaque liées avec ce qu'on a vu dans le passé, comme 0D ou comme ce qui nous avait été déposé par les chercheurs.
Et donc, là, en termes de stats, en gros, habituellement, vous êtes sur une moyenne de, en gros, une vingtaine de nouvelles vulnérabilités.
Ouais, par mois.
Par mois.
Et là, c'était mars-avril. Et là, on voit qu'au lieu de, en un mois, on corrige plus de failles de sécu qu'en un an. Et donc là, on fait, ah ouais, quand même. Et donc l'outil nous trouve des centaines, presque un millier de failles de sécurité. Donc là, on avait déjà, grâce à l'investissement qu'on avait fait sur le fuzzing, on avait déjà beaucoup d'outillage. C'est pour ça que tout à l'heure, je suis revenu sur le fuzzing, parce que les ingénieurs qui ont bossé sur l'intégration des nouveaux modèles orientés sécurité, c'est les mêmes ingés qui bossaient sur le fuzzing. Donc c'est des gens qui connaissent déjà très bien le modèle d'attaque et surtout qui ont mis en place toute l'infrastructure de fuzzing. Et heureusement, sinon, je pense qu'on serait parti en burn-out.
C'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait, il faut quand même réaliser que ces failles, par définition, on ne sait pas qu'elles existent. Donc, c'est-à-dire que là, si on se téléporte en 2025, j'imagine que collectivement, on se dit bon bah il y a beaucoup déjà d'investissements pour trouver des vulnérabilités. Donc, on suppose qu'il en reste, puisqu'il en reste toujours, mais peut-être pas.
Pas 473.
Ah, tu m'aurais demandé, on serait vu la dernière fois, on a discuté ensemble. Tu m'as dit combien tu penses qu'il y a de failles de sécu dans Firefox importantes. Je t'aurais dit ouais, au doigt mouillé, 50, 60 peut-être. Et bah là, c'est un ordre fois 10 quoi. On en est là-dedans.
Il y a un côté terrifiant.
Là, ce qu'on voit. Les autres navigateurs le voient aussi. C'est pas spécifique. Certains auditeurs pourraient dire, ah, c'est juste parce que chez Mozilla, c'est des gros nazes, ils savent pas comment faire. Google voit la même chose sur Chrome.
Et justement, ces failles-là, est-ce que c'est que des failles un peu bénignes, justement, ou est-ce que t'as vraiment?
Non, ça, c'est que des failles. Ça, c'est les CVE, donc les identifiants de vulnérabilité. On a fait l'effort de les classifier. C'est que des failles où potentiellement, t'aurais pu prendre le contrôle du navigateur. Pas nécessairement faire des sandbox, etc. Mais c'est des failles. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur la temporalité, il y a des failles de sécu qui ont 15 ans ou 20 ans. Là-dedans? Ouais, il y a des failles, il y a une faille dans XSLT qui existe depuis 20 ans. Et t'en as une autre sur le Legend qui existe depuis 15 ans. Donc, on a des ingés qui se sont amusés à regarder en disant, depuis quand cette faille de sécurité existe-t-elle? Et donc là, on voit 15 ans.
Ça se trouve, dans ces 1000, vous avez corrigé des trucs utilisés par des services de renseignement.
Il y a forcément eu des déçus, en fait, quelque part dans le monde.
Non, mais c'est peut-être le seum actuellement.
On a brisé le cœur de plein de gens, je pense. Non, mais bon, au final, il faut revenir un peu à ce qu'on fait à l'industrie. Au fait, on cherche à sécuriser les utilisateurs. Notre but, c'est pas de rendre la vie des services plus compliquée. Notre but, c'est rendre les utilisateurs plus sûrs. Et on n'a pas la capacité de savoir si Firefox est utilisé par des gentils ou par des méchants. Nous, on le sécurise pour tout le monde.
Ce qu'on peut expliquer, du coup, visiblement, c'est qu'Anthropic, ils se sont doutés que ça allait se produire, ça. Ils se sont dit, idéalement, il faudrait qu'il y ait une fenêtre dans laquelle il y ait globalement les gens qui défendent, qui aient cet outil un peu avant les gens qui attaquent.
Et ça, c'est le projet Glasswing qu'ils ont créé avec bon nombre d'acteurs. Donc là, les Européens commencent aussi à avoir accès. C'est rendre à disposition aux gentils cet outil-là pour qu'ils puissent sécuriser leur code avant que ça soit publié de manière publique.
Ok. Est-ce que ça a changé, du coup, votre manière de travailler? Est-ce que vous êtes en mode, maintenant, à chaque fois qu'un développeur va pousser quoi que ce soit, ça passe dans le mytho il va taper dans tous les sens sur la nouvelle fonctionnalité. Est-ce que à chaque nouvel update, automatiquement, il se fait taper dessus? Comment ça?
Alors, on l'a intégré dans nos processus de développement. Donc, les fuzzers, en fait, c'est vraiment encore une fois sur les fuzzers parce que c'est la même infrastructure. Les fuzzers tournent en permanence sur le nouveau code.
Dès que tu bouges une ligne?
C'est ça. On lance le fuzzer dessus. Donc, on est capable en quelques heures de détecter de nouvelles failles de régression. Avant, on le faisait avec le fuzzing, mais ça trouvait pas une certaine classe de vulnérabilité. Maintenant, avec les LLM, on est capable de le faire aussi.
Et donc, globalement, ça augmente le niveau de confiance de toute petite modification.
Exactement.
Et un truc intéressant de constater aussi, c'est que, pour le coup, il y a d'autres gens qui, avec les mêmes modèles, ont pas vraiment eu visiblement des bons résultats. En tout cas, qui expliquaient que, sur typiquement le créateur de curl, qu'en testant sur son projet, ils trouvaient pas tellement de vulnérabilités.
Alors Daniel a communiqué dessus, c'est un ancien de chez Mozilla qu'on connaît bien. En fait, il n'avait pas accès lui-même à Mythos directement, c'est quelqu'un qui l'a lancé pour lui. Et là, je reviens sur l'expertise et le niveau de connaissance. Daniel est exceptionnel, c'est un très très bon développeur, mais il n'a pas accès à Mythos. Donc le prompt qui a été lancé, l'outil qui a été lancé sur Mythos, c'était des prompts génériques.
Okay.
C'est-à-dire, nous chez Mozilla, on va dire, voilà les types de vulnérabilités qu'on a, c'est dans telle partie du code, voilà les marqueurs potentiels de failles de sécu, etc.
Donc c'est pas n'importe quel prompt, quoi.
Non, c'est des prompts très métiers et très spécialisés. Mais là, ce qui a été lancé sur curl, et c'est pour ça qu'il n'en a trouvé qu'une, c'est des prompts génériques. C'est « cherche une faille de sécurité dans la mémoire ».
Donc en gros, il pêche avec un filet, c'est mais ça. De manière très large.
Exactement.
Alors que vous, c'est quoi la différence? Vous avez un historique qui est plus riche, j'imagine, de vulnérabilités déjà trouvées.
Déjà, on a ça, et puis surtout que les gens qui vont écrire les prompts, c'est les gens qui s'occupent des failles de sécurité pour certains d'entre eux depuis 30 ans. Donc il y a certains de mes collègues et là depuis Netscape, il y en a certains, ça fait 20 ans qu'ils sont dans la maison et ça fait 20 ans qu'ils s'occupent de la sécu du navigateur, donc ils ont tout vu, ils savent très bien quel genre de faille on a dans notre navigateur.
Mais ce qui est intéressant avec l'exemple du créateur de curl, c'est qu'il dit voilà, j'ai fait tourner Mythos dessus, j'ai trouvé une faille, mais juste après, en fait, on va lui rapporter, tiens, voici 17 nouvelles failles. Ouais. Ah, qu'est-ce qui s'est passé selon toi?
Alors, selon moi, là, j'ai pas accès aux 17 failles, mais je suis certain que c'est des chercheurs qui ont utilisé des modèles avancés et qui, eux, les chercheurs, avaient une très bonne connaissance du type de vulnérabilité dans curl. Et donc, c'est des chercheurs qui ont écrit des prompts très spécifiques par rapport au logiciel qu'ils cherchaient à attaquer. Encore une fois, il y a une analogie qui revient souvent, c'est si je te donne un outil de menuiserie, donc il y a un outil que j'adore qui s'appelle la défonceuse, si je te donne une défonceuse, tu vas faire de la merde avec parce que tu l'as jamais utilisé. Si jamais je te forme, tu vas faire des choses magnifiques avec une défonceuse. C'est la même chose avec ces outils-là. Si tu donnes ça à quelqu'un qui...
C'est
pas magique.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que dans certains cas, vous lancez le modèle genre 14 fois sur une même cible, quoi, en mode je veux essayer de trouver... Et en fait, le lancer qu'une fois... Ça, c'est pas suffisant.
Des fois, c'est pas suffisant. Des fois, ça marche. Mais en fait, quand tu réfléchis au LLM, c'est comme nous, en fait. C'est surprenant comme l'intelligence est similaire à la nôtre avec nos forces et des faiblesses. Tu le lances une première fois, il va pas te trouver. Tu lui dis, si, cherche. Alors, même si toi, en tant que prompteur, tu sais pas s'il y a une faille de sécu, hein. Mais tu lui dis, cherche, il y en a une. Et en fait, il va continuer à chercher. Au bout d'un moment, il revient vers toi tout content. Ouais, je trouve une faille de sécu. mais nous, on le fait travailler, vraiment de manière violente. On lui dit, cherche, même si on sait pas s'il y a une faille de sécu. Mais il en trouve à la fin.
Jusqu'à 14 fois. Ouais, ouais. Et ça peut être à la 14e, quoi, qui va trouver le truc. Ouais. C'est dingue. Et, est-ce que aussi, dans cette gamme de failles, il y en a certaines où tu te dis, ça, un humain n'aurait jamais pu la trouver?
Ouais, le chaînage, par exemple. Alors, quand tu vas utiliser plusieurs vulnérabilités à la suite, donc, par exemple, le chaînage, pour reprendre une image au début qu'on utilisait, c'est, tu vas trouver une vulnérabilité dans le navigateur, tu vas réussir à sortir de la sandbox et tu vas réussir à péter Windows. Et souvent, pour péter Windows, il faut une ou deux vulnérabilités. Ça, t'as des gens qui y arrivent. Il y a des gens, individus qui sont brillantissimes, ou des fois t'as des équipes entières avec des dizaines ou centaines de personnes dont c'est le boulot à plein de temps de chaîner les exploits. Donc là, l'IA, comme c'est quelque chose de super têtu et qui a pas besoin, qui prend pas de RTT et qui travaille pas aux 40 heures ou aux 35 heures, tu peux le faire travailler en permanence là-dessus et avoir des modèles d'attaque qui, d'un point de vue humain, seraient compliqués pour nous, ou t'aurais besoin de faire un investissement phénoménal.
Colossal, oui. Ouais. Un truc qui est intéressant aussi, c'est que dans vos programmes de Bug Bounty, où vous participez aussi à typiquement à ces
événements.
Vous avez eu une recrudescence de participants.
Tout à fait.
Est-ce que tu supposes que c'est lié à justement à ces nouvelles IA, ouais, du fait qu'ils se disent que là c'est bon, c'est la ruée vers l'or en gros, on peut se faire un max de blé en trouvant beaucoup de failles. C'est ça qui peut-être se passe.
Ouais, alors t'as un laps de temps, on l'évalue entre un an et deux ans, où ça va être la catastrophe dans le logiciel, où ces outils sont vraiment extraordinaires et sont capables de trouver des failles de sécu. Donc si t'es chercheur en ce moment en recherche de la vulnérabilité, c'est le moment ou jamais de te faire un
peu de temps
là-dessus, c'est ça. Mais à contrario, et c'est là où il y a quelque chose d'extrêmement positif qui arrive, c'est que là on a vu par exemple Pwn to Own qui avait lieu à Berlin il y a un mois à peu près.
Donc en gros, le principe pour expliquer, c'est que t'as une Tesla, si tu trouves une vulnérabilité, tu repars avec la Tesla.
Il y a un peu d'argent dessus.
Et donc
nous, tu peux repartir avec Firefox, mais vu que c'est gratuit, c'est pas tellement intéressant.
Et il y a aussi des blocages presse.
Ouais, c'est ça.
Mais le nom vient de là, voilà. Ouais,
c'est entre 50 et 150 000 dollars, donc ça dépend des vulnérabilités.
Donc là, il y avait beaucoup de candidats.
Ouais, il y avait 6 candidats. Donc là, on était comme ça, on s'est dit, ah merde.
Plus que les années précédentes, du coup.
Plus que les années précédentes, généralement, c'était 2 ou 3. Mais par contre, dans le passé, quand il y avait des candidats, on était quasi certain qu'on allait se faire poutrer, qu'ils allaient trouver une faille de sécu. Donc on se disait,
ils arrivaient sur deux, quoi. En mode, je suis candidat, c'est que j'ai trouvé un truc.
Ouais, complètement. Donc là, on en a 6 qui, quelques semaines avant, disent, voilà, on a ZDI, qui est la structure qui gère Pwn to Own, on a 6 attaquants dessus. Et on se dit, ah merde. Puis, quelques jours avant l'événement, on apprend qu'ils sont plus que 3. Et à la fin de l'événement, il n'y en a pas eu un seul qui a réussi à poutrer le logiciel. La raison, c'est que comme on avait accès à des LLM super puissants comme Mythos, on a été capable de corriger des centaines de bugs de sécu très rapidement. On avait une centaine d'ingénieurs qui ont bossé là-dessus pendant plusieurs semaines. Et notre objectif en interne, c'était il faut absolument corriger le maximum de failles de sécu avant le mardi avant Pwn to Own, parce que le mardi on faisait une version intermédiaire de Firefox et on corrigeait des centaines de failles de sécu là-dessus.
Ils ont dû être déçus.
Alors, il y a des tweets.
Il y a des tweets.
Des chercheurs.
Il y a toujours un tweet de toute façon.
Un tweet en mode. Bon,
dégoûté.
Il y a eu la mise à jour de Firefox.
C'est un bon week-end.
Allez, des mois de travail. En vrai, ça pointe sur un truc très intéressant, qui est justement le timing. C'est-à-dire que en combien de temps t'es capable de corriger une vulnérabilité versus l'attaquant, en combien de temps il est capable de l'exploiter. Ouais. Il me semble que ça, c'est un nom, c'est un concept.
Ouais, c'est zero day clock maintenant.
Zero day clock.
Ça inquiète pas mal de gens.
Qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Donc, quand tu corriges une vulnérabilité sur un logiciel, en particulier open source, mais même un logiciel propriétaire, sur l'open source, tu vois le correctif. Donc, tu vois, par exemple, on a rajouté un nettoyage de mémoire quand c'est du C ou du C++, ou on a rajouté une vérification d'une variable. Donc, tu peux lire le changement et tu as des moyens de savoir que c'est pour corriger une faille de sécurité. Mmh. Historiquement, en tant qu'humain, il y avait des gens qui savaient faire ça, qui savaient lire l'historique du code et dire « Ah oui, ça, c'est une vulnérabilité, je vais écrire un exploit dessus ». Et comme les utilisateurs sont pas toujours très rapides pour mettre à jour le logiciel, il y a une fenêtre de temps entre le moment où la vulnérabilité est corrigée, où le logiciel qui intègre le correctif de la vulnérabilité est publié, et le moment où l'utilisateur met à jour. Donc ça, c'était il y a pas si longtemps que ça, il y a 5-10 ans, ça pouvait être quelques semaines, quelques mois. Maintenant, dans le monde dans lequel on est, c'est des fois quelques jours. Donc le temps s'est vraiment raccourci dans le monde du logiciel.
Parce que vous avez, globalement, les mécanismes de mise à jour automatique ont aussi progressé.
C'est ça. Et tout le monde dans l'industrie a mis ça en place. Donc maintenant, il y a une directive européenne qui s'appelle le Cyber Resilient Act, où c'est va être obligatoire que les logiciels aient des systèmes de mise à jour intégrés derrière. Parce qu'on sait tous que si tu utilises un vieux logiciel, un vieux Firefox, un vieux Windows, un vieux Chrome, c'est bourré de failles de sécu. Et c'est vraiment le conseil en permanence qu'il faut répéter. Mettez à jour vos logiciels.
Faire les updates. Mais c'est ça, c'est hyper intéressant. Parce que ce qui a le plus de valeur et qui est le plus cher, on l'a vu, et le plus difficile à trouver, c'est la faille en elle-même. Mais dans le cas présent que tu décris, la faille, c'est, entre guillemets, c'est vous dévoiler son existence par le fait de faire une mise à jour, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder, donc dans le cas de Mozilla qui est open source, c'est encore plus facile, du coup, il suffit de regarder la dernière update, dire, tiens, ils ont corrigé ça, j'ai devant moi une journée entière pour aller, en fait, me faire tous les gens qui sont pas encore
mis à jour.
C'est ça.
Et ça, la temporalité, il y a une dizaine d'années, c'était des mois et des mois pour faire ça, entre le moment où la faille est corrigée et le moment où on voit un exploit sur Internet qui l'utilise, c'était des mois.
Parce que, en fait, quand tu utilisais un bug, ça demande parfois des trucs de fou. Bon, en fait, on peut donner 2-3 exemples, mais les systèmes d'exploitation, par exemple, se sont protégés progressivement vis-à-vis de plein de techniques d'exploitation de failles, justement, pour faire en sorte que tu puisses pas exécuter du code à n'importe quel endroit de la mémoire. Enfin, il y a toute une série comme ça de mises à jour. Et donc, aujourd'hui, les attaquants doivent rivaliser d'ingéniosité pour contourner tous ces systèmes-là et passer du petit bug sur un input à, en fait, tu dois chaîner des micro-bouts de code pour faire à la fin ce que tu veux. Enfin, c'est une expertise complètement dingue qui justifie ces semaines de travail.
Complètement. Ce qui se passe maintenant dans les dernières évolutions, et ça tu peux déjà le tester avec des modèles grand public, hein, tu lui donnes l'historique de code d'un logiciel et tu lui dis ça c'est une faille de sécurité, ça c'est un correctif d'une faille de sécurité, génère-moi un exploit. Et donc le LLM est capable de remonter, de comprendre et de le générer.
Donc on a une réponse pour le fait de le trouver les failles, c'est de se dire ok, bah faut juste qu'on ait accès aux tout meilleurs modèles et qu'on les run tout le temps. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on a justement une réponse sur ce scénario un peu catastrophe qui fait peur? Parce que est-ce que les plus grosses boîtes aujourd'hui sont capables de, comme ça, d'update de manière un peu instantanée tout leur parc? Ça paraît impossible, quoi.
Ah non, c'est ça la grosse inquiétude que j'ai, moi, c'est est-ce que les grosses structures françaises ou européennes qui ont un parc logiciel vont être capables de mettre à jour aussi rapidement? Donc c'est important après de remettre en place des concepts comme le Zero Trust, c'est-à-dire que même en interne, les serveurs font pas confiance aux ordinateurs en interne. Comme ça, si t'as un ordinateur qui est pété, ça va pas casser tout l'infrastructure de l'entreprise. Mais oui, on est dans un laps de temps où on est quand même dans une situation. Heureusement, il y a que les gentils qui ont accès à ces outils-là à l'heure actuelle, mais où t'as quand même des grosses problématiques de sécurité qui vont se poser dans les mois à venir là-dessus.
Et moi, je discutais avec des gens dans les grosses boîtes qui me disaient, bah, à l'heure actuelle, pousser une mise à jour en quelques heures dans une grosse boîte, c'est impensable. C'est déjà, si on arrive à le faire en une journée, on est bon, quoi. Parce que il y a des processus, etc. Et c'est pas du tout adapté à ça. Alors, on disait, les attaquants, ils ont pas forcément accès à Mythos. Après, il y a les autres modèles plus classiques de LLM qui sont aussi quand même très bons. Alors, peut-être un petit peu moins bons sur les benchmarks. C'est ça. Mais ils ont quand même accès à des choses. Hein.
Et surtout, ils ont pas besoin d'être aussi bons à trouver la vulnérabilité.
Oui.
Il faut qu'ils soient juste bons à bien la comprendre et à faire l'exploit qui correspond.
Ouais. Et donc, c'est très rassurant, tout ça, excellent.
Il paraît que, en réalité, c'est même pas encore fini parce que vous avez donné à Mythos qu'une partie en fait encore de Firefox.
Ouais, il y a encore des failles à trouver. Donc là, on bosse encore dessus.
Quelles sont les raisons? Est-ce que ça coûte cher? Je sais pas ce que tu peux nous dire.
Je peux pas communiquer sur les chiffres. Ça coûte relativement cher. Ouais. C'est pas à la portée de tout le monde. Je suis content que c'est mon employeur qui paye et pas moi, tu vois.
Mais j'imagine que à ce rythme-là, c'est un investissement qui se justifie, quoi.
Tout à fait. Alors, il y a une image que mon chef utilise que j'aime bien répéter parce qu'elle est très bien. C'est que t'as trouvé un puits qui est rempli de terre et tu sais qu'à la fin, il y a de l'or ou de l'eau. Et là, tu creuses, mais tu sais pas si t'as encore un mètre de terre ou si t'as encore 10 mètres. Et,
ah oui.
Et là, on est là-dedans. On sait pas du tout la taille du trou. Donc, on a déjà corrigé beaucoup. On en voit encore qui arrivent, mais on sait. Il y aura un moment, ça c'est la bonne nouvelle, il y aura un moment où on aura beaucoup moins de failles de sécu et que les failles de sécurité qu'on aura dans notre logiciel coûteront une fortune à un attaquant. Et ça c'est vraiment le côté optimiste face à la conversation un peu plus dark qu'on vient d'avoir, sombre. C'est il y a un moment où on aura beaucoup moins de failles de sécu et c'est ça quand même le truc qu'il faut tirer de ça, la conclusion qu'il faut tirer.
Après ce laps de temps très très difficile.
Ouais, c'est ça.
Et ça pour l'ensemble des logiciels dans le monde?
Alors pour les logiciels, ils sont maintenus, parce que t'as quand même beaucoup de logiciels qui sont plus maintenus. Ça, c'est ce truc-là. T'as les logiciels qui sont pas mis à jour, mais sur des logiciels majeurs que tout le monde utilise, donc les systèmes d'exploitation, téléphone et ordinateur, les navigateurs et les logiciels les plus populaires, tout le monde bosse là-dessus en ce moment. Donc t'as ça qui va arriver.
Est-ce que tu considères que du coup, dans ce laps de temps-là, ça devient un avantage d'être d'avoir un logiciel propriétaire, parce que tout le monde va un peu réfléchir à comment tu te protèges. Est-ce que l'open source, justement, comme modèle, où en fait tout le monde peut lire le code constamment, y compris les LLM des autres, globalement, est-ce que ce modèle est en train d'être chamboulé?
Alors là, je pense qu'il y aurait des travaux académiques à réaliser là-dessus dans un an ou deux, quand on aura plus de recul là-dessus. Intuitivement, j'ai envie de dire que l'open source a été tellement attaqué parce que les gens justement avaient accès au code qu'on a déjà un historique de sécurisation de notre logiciel qui court en l'occurrence pour nous depuis 25 ans. Android, c'est la même chose depuis une dizaine d'années ou quinzaine d'années. On s'est fait poutrer par tous les gens qui avaient accès au code. Donc déjà, on a ce modèle-là d'attaque, ce que les logiciels propriétaires n'ont pas eu. Et après, ce qu'on voit dans les dernières publications, c'est que les LLM sont capables d'appeler des outils comme Hydra, qui est le désassembleur. C'est-à-dire que ça va prendre le code machine et le rendre plus lisible, qui nous, pour humains, est toujours pénible à lire, un code désassemblé en C. Mais pour un LLM, ça lui pose pas de souci. C'est la variable, elle s'appelle A, B et C.
En fait, ça change pas grand-chose, quoi. Ouais. De son point de vue, inhumain, entre le code source tout beau, tout propre, et l'assembleur, il va se débrouiller, quoi.
Ouais, complètement.
Peut-être ce qu'on peut imaginer, c'est que dans cette phase justement intermédiaire ou qui va être sport, au début, peut-être que les modèles open source vont être plus attaqués parce que la barrière à l'entrée est plus basse, entre guillemets, le code est dispo en un clic. Mais en fait, il faut peut-être s'imaginer que c'est aussi ceux qui vont du coup être sécurisés en premier.
C'est ça, ouais.
Et qu'il y aura dans un deuxième temps un focus qui sera peut-être déplacé sur le propriétaire, quoi.
Tu peux imaginer aussi que si t'es attaquant, tu te dis, ah bah tiens, je vais taper des logiciels qui n'ont pas été trop tapés parce qu'ils étaient propriétaires et que t'as probablement des vecteurs de vulnérabilité qui n'ont pas trop été exploités parce que t'avais pas accès aux sources, donc t'as peut-être moyen de jouer avec ça. Pas des Microsoft qui ont déjà beaucoup investi dans la sécu pendant des décennies maintenant, mais sur des logiciels un peu plus intermédiaires.
Il y a un côté très imprévisible qui est intéressant parce que j'ai l'impression que, et ça vaut dans tous les domaines de l'informatique, mais qu'il y a une sorte de stabilité quand même sur la manière, tu le disais, il y a des gens qui sont depuis chez 30 ans chez Mozilla, qui font de la cybersécurité, qui a eu des changements, il y a comme on a dit, la surface a complètement changé, on peut faire de la 3D et tourner des jeux vidéo dans le navigateur, mais fondamentalement le métier n'a pas tellement changé. De l'intérieur, comment vivent ces gens, comment ils ont vécu ces transformations soudaines et abruptes de leur métier, quoi?
Je pense que c'est pas spécifique à Mozilla. Je pense que beaucoup d'entre nous avons vécu avec l'informatique où t'es ébéniste, grosso modo. Donc, tu fabriques ton petit violon dans ton coin avec ton art et tes outils. Et que là, il y a une usine de violons industriels qui fait tout en plastique, qui vient de sortir de terre. Et que comment est-ce que tu gères la transformation? Ouais. Donc, il y a des gens comme moi où là, c'est plus sensible. C'est moi, ce qui m'intéresse, c'est le résultat final. C'est-à-dire que le chemin m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le produit final. Donc moi, la manière dont on construit le produit m'intéresse, mais c'est pas ma priorité. Et j'ai des collègues et amis qui, eux, ont une approche un peu plus philosophique du métier, qui, eux, pour reprendre l'image de l'ébéniste et du violon, ils aiment beaucoup toucher le bois, le faire avec la main, avec les ciseaux à bois, etc. Et là, tu perds un peu de l'essence de ton travail. Et là, pour certaines personnes, c'est un peu difficile là-dessus, cette transition. Donc là, c'est des périodes d'ajustement où l'IA est peut-être quand même sur des sujets pénibles. Tu vois, il y a des gens qui disent, moi, j'aime toujours le faire à la main, mais pour écrire les tests unitaires, je vais le faire par une IA. Donc là, on est dans une phase de transition dans l'industrie.
Ou alors, ça veut dire qu'on aura des hobbies. Voilà, le week-end, on sera ébéniste.
C'est ça.
Merci beaucoup, Sylvestre.
Merci.
C'est intéressant.
Et si le sujet vous a plu, je vous recommande celui où on découvre les magouilles utilisées par les géants de l'IA pour aspirer les données de tout Internet et des ayants droit. C'était dans cette vidéo.